Bonjour. Je vous propose de lire un passage assez connu des évangiles ce matin, l'épisode où Jésus chasse les marchands du temple. Passage court mais d'une grande densité, que l'on ne pourra bien sûr pas aborder de manière exhaustive. L'événement n'est en tout cas pas anodin, puisqu'il est rapporté dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, et il y a aussi un épisode dans l'évangile de Jean. Et pour commencer, je vous invite à lire les récits dans Marc et dans Matthieu, qui sont complémentaires. C'est en Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11. À partir du verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Et après, on va au verset 15, qui se situe le lendemain. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. » Et on va dans l'autre passage parallèle, en Matthieu, chapitre 21, les versets 12 à 17. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ?»« Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et dans ces textes, je tâcherai de faire ressortir quatre points. Le premier point que j'ai nommé « Voler à Dieu » la sainteté de son sanctuaire. Le temple de Jérusalem, le temple de l'Éternel, le temple de Dieu. C'est à l'époque le centre du monde pour tout juif qui se respecte, l'endroit le plus beau, le plus précieux, le plus sacré, etc. Pour tout juif religieux en tout cas. Et c'est de fait pour les juifs le seul endroit où on peut rendre un culte complet en Israël. Et même le seul endroit pour les sacrifices dans le monde entier. Ce qui n'était pas possible de faire dans les synagogues des autres villes. Ainsi tout le peuple, un grand nombre en tout cas, vient trois fois par année à Jérusalem pour les grandes fêtes du calendrier juif, dont la Pâque, comme le fait ici Jésus. C'est vous dire l'importance de cette ville et le caractère primordial du temple. Une importance que l'on ne mesure peut-être pas pleinement depuis Thonon, 2000 ans après. Nous n'avons pas la culture hébraïque des contemporains du Christ, et nous avons ainsi peut-être du mal aussi à nous représenter ce qu'était ce temple à cette époque. Alors je me permets de vous montrer un peu de concret pour aider à mieux visualiser ces passages, si tu peux montrer la première diapo. Et on peut voir sur cette image une maquette de cette partie de la ville, au sommet de la colline de Sion, une grande esplanade entourée de hauts murs et le temple proprement dit au centre. Et la deuxième diapo, un schéma de ces différentes parties. Quelque chose d'assez grand et de majestueux, environ 300 mètres sur 600 mètres en tout, la taille de 30 terrains de football à peu près. Et on peut noter différents cercles de sainteté dans ce complexe. Le plus important, dans le bâtiment du temple lui-même, le lieu très saint. A priori, sans l'arche de l'Alliance à cette époque, elle qui était présente dans le premier temple, construit par Salomon, a vraisemblablement disparu lors de sa destruction quelques 600 ans auparavant. Dans ce lieu très saint, seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par an. Puis il y a le lieu saint, l'autre partie du temple, où seulement les sacrificateurs pouvaient entrer. Puis autour, le parvis des prêtres, pour tous les lévites en fonction. Puis autour encore, le parvis d'Israël, seulement pour les hommes. Puis un peu à droite, le parvis des femmes. Puis hors de l'enceinte du temple, et autour d'un autre mur encore, le parvis des païens. Et sur la dernière diapositive, on peut un peu l'apercevoir en bas à gauche, ce mur qui faisait aussi le tour de la zone du temple même, même si on n'est pas sûr exactement de l'endroit où il était, mais les païens ne pouvaient pas franchir ce petit mur sous peine de mort. Et dans les fouilles archéologiques, il a été retrouvé des pierres gravées en plusieurs langues qui disaient « si vous passez ce point, vous serez tué ». Dans les évangiles originaux en grec, il y a deux mots différents pour le temple lui-même et pour l'ensemble du complexe du temple qu'on vient de voir sur les diapos. Distinction que nos traductions ne reflètent pas toujours. Ainsi, pour le lieu exact dont on parle dans notre passage, quand certaines traductions de nos Bibles disent que Jésus entra dans le temple, il faut en fait comprendre Jésus entra sur l'esplanade du temple et il est alors sur le parvis le plus extérieur de la zone, le parvis des païens. Ah bon, c'est de ça dont on parle? Bon, on s'en fiche alors. C'est pas grave. Pas de quoi se fâcher et de faire un esclandre. Ce n'est pas vraiment justifié. Non, personne ne réagit. Tout le monde dort déjà ou... Ça ne vous choque pas ce que je dis? Peut-être que c'est effectivement ce que l'on se dit après tout. C'est vrai quoi? On est quand même assez loin en périphérie de la zone principale, et ce n'est pas si grave. C'est en tout cas ce que semblaient se dire les Juifs de l'époque. Le lieu très saint est préservé, le lieu saint est préservé, le parvis des prêtres est préservé, le parvis d'Israël est préservé. C'est l'essentiel, non? N'ai-je pas parfois ce même mode de raisonnement pour ma propre vie? N'ai-je pas une certaine indulgence pour accepter un certain partage de ma vie entre ce qui est à la gloire de Dieu et ce qui ne l'est pas? Et je me pose la question à moi-même en particulier, évidemment, en premier. Question pour laquelle, d'ailleurs, je connais souvent la réponse. Oui, malheureusement, la périphérie de ma vie, sinon le cœur, n'est pas toujours pleinement consacrée. J'ai trop souvent le cœur partagé et je m'en accommode malheureusement trop facilement. Pardonne-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, purifie-moi Seigneur. Oui, le peuple d'Israël de l'époque était largement corrompu, partagé pas entier pour l'Éternel, et cela faisait certainement de nombreuses années que de telles pratiques existaient dans l'enceinte du temple. On peut les prendre de haut et les railler, que des nuls ou des hypocrites quand même. Mais si on veut bien être honnête, on fera certainement moins le malin, à titre personnel. Un commentateur écrivait que les commerçants et trafiquants sur le parvis extérieur volaient à Dieu la sainteté de son sanctuaire. Ils volaient à Dieu la sainteté de son sanctuaire, car ils étaient bien à l'intérieur de l'enceinte sacrée du complexe du temple. Mais nous, Nous sommes désormais le temple de Dieu. Nous sommes désormais le temple de Dieu. Ainsi, pour reprendre cette expression forte, nous volons aussi à Dieu la sainteté de son sanctuaire quand nous ne lui sommes pas consacrés tout entiers. Quand nous ne le laissons pas nous sanctifier tout entier. Je dis nous, mais je devrais dire je, bien sûr. Boum. Ce passage nous a tous assommés. Mais bien heureusement, on peut aussi dire « Merci Seigneur pour ton fidèle pardon, sans cesse renouvelé. Merci pour ton aide, Saint-Esprit, vivant en moi. Continue de me purifier et de me sanctifier. Pour ta gloire, pour la gloire de Dieu. » Ne restons pas en effet dans l'accablement, secoué par la parole qui veut parfois nous chambouler. Regardons à Dieu et avançons, progressons dans et par sa grâce. Recherchons, aspirons à la sainteté, à la perfection voulue et attendue par Dieu. Au cœur de nos vies, bien sûr, mais même aussi dans ce que l'on croit être la périphérie de nos vies, dans les endroits plus secondaires de nos existences. Pas toujours facile, n'est-ce pas? Jésus avait le droit de purifier le temple comme il l'a fait. Jérusalem, c'est sa ville. On ne l'a pas lu, mais il vient d'y être accueilli comme leur roi Messie, juste quelques versets plus haut. Et le temple, c'est sa maison. En tout cas, la maison de son père, car il est le Fils de Dieu, le propriétaire des lieux. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Questionnait l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 6, 19. Dieu a ainsi aussi le droit de nous purifier car nous sommes à lui, nous lui appartenons. Ce n'est pas, je l'espère, un traumatisme, un risque, une corvée ou quelque chose qui nous arrache, mais plutôt un privilège, une grâce, une gloire pour nous, ses enfants. Oui, ce n'est pas toujours facile, mais nous le savons bien, c'est un beau programme de la part de Dieu pour nous. Le deuxième point que je voulais souligner de ce passage, je l'ai intitulé « Kidnapper Dieu ». Kidnapper Dieu. Si un étranger qui ne fait pas partie de ton peuple Israël vient d'un pays lointain pour prier dans ce temple parce qu'il aura entendu parler de ta grandeur et de la puissance que tu déploies pour agir, veuille l'écouter depuis le ciel. Depuis la demeure où tu habites, et lui accorder tout ce qu'il t'aura demandé. De cette manière, tous les peuples du monde te connaîtront. Ils te révéreront comme le fait ton peuple Israël, et ils reconnaîtront que ce temple t'appartient. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 32 et 33. C'est une partie de la prière du roi Salomon lors de la dédicace du premier temple. Certes, ce temple-là a été détruit, mais le temple du temps de Jésus a toujours la même vocation, celle d'un témoignage, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Et c'est aussi cette dimension essentielle que les Juifs d'alors avaient oubliée, ont bafoué. Et c'est ce qui, entre autres, a indigné Jésus et motivé ce qu'il a fait. Matthieu ne cite qu'une partie du verset de l'Ancien Testament dit par Jésus, mais la citation complète dans Marc, et c'est pour ça que j'ai voulu lire Marc aussi, souligne bien la motivation de Jésus en la matière. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Même si ce n'était que la partie la plus périphérique du complexe du Temple, elle n'était pas accessoire. Au contraire, elle était importante, précieuse, et surtout précieuse aux yeux de Dieu, comme Jésus l'a démontré. Sa vocation n'était pas oubliée de lui. Les Juifs avaient profané en y permettant le commerce et la présence de bestiaux en tout genre à l'intérieur de l'enceinte sacrée. C'était pourtant le seul endroit où des non-juifs, attirés par le Dieu d'Israël, pouvaient venir l'adorer. Et à nos yeux aujourd'hui, ça peut déjà nous paraître bien injuste, comme si les non-chrétiens qui venaient à un culte dans notre église ne pouvaient rester que dans la cour, à peine assis sur un tabouret. On n'a pas trop le temps de s'étendre là-dessus pour l'expliquer. Mais là, ils devaient le faire au milieu du brouhaha et des odeurs d'une place de marché, mêlée de foire aux bestiaux. Tout ce commerce religieux, c'était de fait la partie la plus importante de l'économie de Jérusalem. Tout juif pieux doit dépenser dans la ville un dixième de son revenu. Tout juif doit aussi payer chaque année l'impôt du temple pour son entretien. Et les juifs venus de loin devaient changer leur monnaie étrangère. On vendait de l'huile et de l'encens pour des offrandes, des colombes, des moutons, des boucs, des taureaux pour les sacrifices. Des milliers de pèlerins, des dizaines de milliers peut-être à certaines époques de l'année. Et on estime aussi qu'il y avait 20 000 prêtres au service du temple à tour de rôle. Bref, toute une industrie certainement lucrative que le clergé semble avoir préféré avoir toute proche, un commerce local sous son contrôle, plutôt qu'éparpillé dans la ville, et tant pis pour la sainteté du temple et pour la vocation du temple. On pourrait cyniquement se dire qu'ils auraient pu laisser plus de place pour les païens, ils auraient pu faire plus de business et donc plus d'argent. Mais le problème soulevé par Jésus est plus profond que le sujet déjà grave de cet amalgame religio-commercial. Son reproche principal est, je pense, que les Juifs d'alors avaient en quelque sorte kidnappé Dieu. Kidnappé Dieu. Au lieu d'en être les témoins, ils se l'étaient égoïstement accaparé. Bien sûr, le peuple juif était le peuple élu par Dieu, avec un lien vraiment privilégié, mais peuple élu pour être témoin de Dieu, du Dieu éternel, du Dieu universel. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est unique. Il est et doit donc être le Dieu de tous. L'apôtre Paul posait aussi l'affirmation dans l'Épître aux Romains. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Romains 3, verset 29. Normal, il n'y a qu'un seul Dieu. Les religieux d'alors avaient réduit le Dieu de l'univers au Dieu des Juifs exclusivement. Donc, on ne laisse plus de place, et plus de place décente, sanctifiée, propice à la prière et l'adoration dans l'enceinte du temple pour ces non-juifs que l'on méprise, et que d'une certaine manière on considère inférieurs et pas seulement égarés ou pas encore éclairés. On ne veut pas partager avec eux. On ne veut pas partager avec eux. Mais en méprisant les étrangers, ils ont aussi méprisé Dieu. Ça commence à faire beaucoup de griefs contre eux. Mais ne méprisons pas non plus ces Juifs en considérant ces passages. Nous mépriserions Dieu, nous aussi. D'une certaine façon, on peut comprendre leur attitude. Le mélange avec les nations païennes n'a-t-il pas été un élément important dans le regrettable égarement d'Israël, loin de Dieu? N'ont-ils pas par le passé été déportés par des nations païennes? Des païens avant la révolte de la famille Maccabée un siècle auparavant n'ont-ils pas profané le temple et essayé de totalement détruire la religion juive? Ne sont-ils pas encore sous l'oppression de païens, ces envahisseurs romains? Bref, le repli sur soi, le repli identitaire, est certainement perçu par beaucoup comme la solution, la chance de survie de leur nation, de leur culture, de leur religion. Un repli perçu comme salutaire. Alors évidemment qu'on ne veut pas partager avec les païens. Et surtout pas ce qui fait notre identité et notre fierté. Hier comme aujourd'hui, c'est un réflexe bien humain que l'on peut régulièrement observer. L'Église et les chrétiens ont aussi eu à diverses époques de l'histoire et à travers le monde ce genre de réflexe, n'est-ce pas? Et sans parler de repli sur soi, qui n'est pas notre cas ici, ne nous arrive-t-il jamais de kidnapper Dieu ? Ne nous arrive-t-il jamais, même dans une pensée furtive, de nous croire un peu supérieurs en ayant le privilège de connaître le seul vrai Dieu ? Ne nous arrive-t-il jamais de réduire un peu la place des non-chrétiens dans nos projets, nos préoccupations ou nos prières ? Ou de réduire Dieu ? Oui, réduire Dieu dans son identité, dans son rôle, dans son envergure, dans sa volonté. De faire du Dieu de l'univers juste le Dieu de notre petite personne ou de notre petite église locale ou, voyons large, de notre famille d'église. Non, évidemment non. Bien sûr que non. Ça ne nous arrive jamais. Ah bon, excusez-moi alors. Dieu est-il juste pour notre confort personnel ou pour le salut des âmes ? Je vous renvoie au message du culte Miché. Tiens, les affiches ont été arrachées tout à l'heure. Elles étaient quand je suis arrivé encore. Qu'on a pu avoir mi-octobre, qui parlait d'accueil généreux, d'hospitalité, d'accueil de l'étranger, avec en particulier ce rappel de comment Dieu nous a chacun et chacune ici accueillis comme ses enfants d'étrangers que nous étions. Accueillis comme ses enfants d'étrangers que nous étions. Quelque chose n'a certainement pas oublié. Oui, nous étions de ces étrangers. Alors réjouissons-nous d'être désormais bénéficiaires de cet accueil divin également. Dès les premiers temps de la Genèse, avec notamment la bénédiction à Abraham, le message et la bénédiction de Dieu sont en effet pour toutes les nations. Témoignons-en, partageons-le avec toutes les personnes encore étrangères à la famille de Dieu. Et elles sont nombreuses autour de nous. Comme on l'a vu, il ne s'agit pas de faire entrer le monde, et en tout cas pas la mauvaise influence du monde, dans l'Église ou dans nos vies, pas même alors à la périphérie, mais ne confisquons pas, ne réduisons pas la portée universelle et magnifique de notre Dieu et de son message. Ou comme dans ce passage, peut-être que Dieu finirait, à juste titre, à s'indigner contre nous aussi. Le troisième point que je souhaiterais souligner, je l'ai intitulé « Des mises en garde claires et nettes ». N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas la culture hébraïque des contemporains du Christ. Mais quand Jésus dit ces quelques paroles aux Juifs présents sur place, tous comprennent que ce sont des citations d'Ésaïe 56 pour la première partie de la phrase et de Jérémie 7 pour la deuxième partie. Et tous connaissent le contexte de ces versets, voire les passages par cœur, même pour les principaux sacrificateurs et les scribes en tout cas. Et on peut comprendre que cela ne leur plaise pas. Ces passages comportent de forts reproches contre les leaders du peuple et sur leur considération du temple comme un fétiche possédant le pouvoir magique pour les protéger contre les conséquences de leur conduite répréhensible. Le temps nous manque pour nous y pencher davantage, dommage, mais je lirai quand même ces passages d'où ces paroles de Jésus sont tirées, sans autre commentaire. Ésaïe 56, à partir du verset 6, « Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Petit commentaire quand même. Merci Seigneur, à toi la gloire. Et verset 10, Ésaïe 56 toujours. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Boum. Passage choc qui n'a pas dû plaire au chef du peuple. Et Jérémie 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Dérober, tuer, commettre des adultères ? Jurer faussement, offrir de l'encens à Baal ? Aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas ? Puis vous venez, vous présentez devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites « Nous sommes délivrés ». Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Gloups. Dans les quelques paroles de Jésus, les gens et les chefs du peuple en particulier entendent tout cela. Sévère, très sévère reproche et grave mise en garde contre eux et contre le temple. Là encore, soit ça reprend pour toucher à salut, à mener à la repentance et au changement, soit au contraire ça endurcit, jusqu'à se débarrasser de ce Jésus gêneur et à chacun de choisir. On fête en ce moment les 500 ans de la réforme, ça a été dit, et c'est déjà ce à quoi appelaient ces textes. À quoi d'autre appelle-t-il en effet, sinon à une réforme ? Appel à la réforme du cœur et de nos cœurs, toujours à nouveau. Oui, nous devons toujours y être vigilants et prier en particulier pour que vos leaders vous encouragent, pour que je vous encourage et vous guide dans la bonne direction. Et enfin, le dernier point que je voulais souligner de ce passage, j'ai noté encore une révolution en Jésus. Les textes sont trop riches pour tout dire, mais pour finir, je ne peux m'empêcher de regarder avec vous encore rapidement la fin du récit, telle que mentionnée par Matthieu, car elle ouvre encore, je trouve, de belles perspectives dont nous pouvons nous réjouir. Les principaux sacrificateurs et les scribes sont indignés, sont en colère, selon une traduction plus littérale. Et un commentateur écrit encore « Jésus vient de vider le parvis du temple de ses occupants. Au moment où habituellement le temple grouille d'une affluence pascale, il se trouve étrangement vide. Le grand bazar s'est tu. Et que se passe-t-il ensuite ? Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans la cour du temple et il les guérit. » Des aveugles et des boiteux, des gens sûrement généralement malvenus, ont eu la hardiesse de s'approcher dans le temple et d'occuper son parvis extérieur. Jésus les accueille favorablement, il les guérit. Et à la suite de ces nombreux autres miracles, cela peut paraître sans signification particulière, sauf que les sacrificateurs sont mécontents d'un événement si admirable. Pourquoi ? On pourrait comprendre que les principaux sacrificateurs soient vexés du geste de Jésus à l'encontre des marchands, mais non. Matthieu souligne que l'indignation des chefs est à la vue de ces miracles. Sont-ils si bornés ? D'habitude, les principaux sacrificateurs râlent quand Jésus guérit le jour du sabbat. Ici, c'est par rapport au lieu, le temple. Je ne savais pas non plus, mais un règlement qui datait de l'époque du roi David limitait l'accès du temple pour les boiteux et les aveugles. Suite à une vexation que David avait eue lors de la prise de la ville de Jébus, donc qui est devenue Jérusalem, on ne le dira pas, mais on trouve cela en 2 Samuel 5, versets 6 à 8. Et du coup, il y avait une réglementation qui limitait l'accès au temple des boiteux et des aveugles. Et Jésus, qui vient d'être acclamé fils de David, passe outre les restrictions imposées par David et la tradition du temple, ce qui indigne les principaux sacrificateurs qui ne permettent pas que Jésus se prenne et même se montre pour plus grand que le roi David. Mais contrairement à la tradition, Jésus montre ce que la maison de Dieu pouvait devenir, non pas une place réservée à ceux qui auraient le droit d'y entrer, en vertu de leurs conditions de vie ou leurs conditions physiques, mais plutôt un lieu d'accueil et de rétablissement offert gratuitement aux nécessiteux. Un lieu d'accueil et de rétablissement offert gratuitement aux nécessiteux. Révolutionnaire, non ? Jésus serait-il vraiment plus grand que le roi David ? Jésus lui-même clarifiera cette question dans la suite des événements, dans ses échanges avec les pharisiens et les chefs du peuple. Et les enfants, qui se sont aussi infiltrés dans l'enceinte du temple, le chantent déjà « On ne peut plus fort ». Là encore, quel scandale ! Et les chefs deviennent furibonds. Mais Jésus répond par une autre citation de l'Ancien Testament, le psaume 8, avec un brin d'ironie. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. » Dans ce psaume, David louait la splendeur admirable de l'Éternel Seigneur, et Jésus suggère qu'il est parfaitement normal qu'il reçoive la louange que David aurait réservée à Dieu seul. N'est-ce pas choquant ? À moins que cela ne soit légitime pour Jésus, le Messie, et plus encore le Fils de Dieu. Oui, il est parfaitement normal que Jésus reçoive la louange due à Dieu. Les petits et les faibles sont ceux qui l'ont compris. L'avons-nous compris ? Quel contre-pied de la part de Dieu, là encore ? Décidément, Dieu a bien des choses à nous apprendre, et heureusement qu'il est pour nous un patient pédagogue. Grâce lui soit rendue, et à lui seul soit la gloire et la louange. Amen.